Et tout de suite, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec Michaël Ponge. Bonjour Michaël.
Bonjour Juliette, merci. Il est 8h10 à Atlanta. Vous reprendrez bien un peu de midterms américaines, les élections de mi-mandat qui jouent les prolongations. Ce mardi, la Géorgie vote à nouveau, second tour de sa sénatoriale. On va décrypter avec notre invité. Puis le Canada qui continue son travail contre les gangs en Haïti. Nouvelle salve de sanctions, cette fois-ci contre le secteur économique. On sera à Port-au-Prince avec Godson Pierre d'Alter Press avant bien sûr de vous retrouver. Benoît Ferrand pour le journal de la première. En Guadeloupe aujourd'hui, on parle santé.
Avec la liste des communes guadeloupéennes où l'offre de santé serait insuffisante, qui vient d'être réactualisée, la précédente datée de 2017.
On se retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous.
RFI, The World's Voices.
I want you to vote. Like democracy depends on it. You ought to vote like it's an emergency.
Je veux que vous votiez comme si la démocratie en dépendait. Vous devez voter comme si c'était une urgence. Message du sénateur sortant, le démocrate Raphaël Warnock, hier aux électeurs de l'État de Géorgie, où les bureaux de vote sont ouverts depuis maintenant un peu plus d'une heure. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
Quatre semaines après les élections de mi-mandat, il faut revoter ce mardi, car ni Raphaël Warnock, arrivé en tête avec un peu plus de 38 000 voix d'avance, ni l'ancienne star du foot, le républicain Herschel Walker, n'ont atteint les 50% de voix nécessaires pour remporter le siège de sénateur de l'État le 8 novembre dernier. C'est encore à la une de la presse, donc ce matin.
Et oui, Politico revient sur la dernière journée de campagne des deux hommes. Ce lundi, Warnock était chez un brasseur de bière et Walker un champ de tir. De Hill explique pourquoi les démocrates sont très optimistes. Ils pensent disposer d'un excellent candidat qui a servi comme pasteur dans l'église baptiste de Martin Luther King, un homme qui a déjà gagné en 2021 et le mois dernier, pour le premier tour, a remporté plus de voix que son adversaire. Adversaire dont toute la campagne a été marquée par des controverses et dont les liens avec Donald Trump pourraient se révéler handicapants. Dans cette élection, ce qui est en jeu, rappelle Politico, c'est une véritable majorité au Sénat pour les démocrates, qui disposent en ce moment de 50 sièges, plus la voix de la vice-présidente Kamala Harris pour faire la différence. Le New York Times rappelle que c'est aussi pour Donald Trump, qui vient de lancer sa troisième campagne présidentielle, la dernière chance pour revendiquer une victoire dans un combat mené par un de ses alliés politiques les plus proches. En attendant, écrit le journal local Lagrange News, le vote a déjà largement commencé. 1 800 000 personnes ont voté en avance en Géorgie, dont près de 353 000 le dernier jour. Un record, Michael.
Une participation, en effet, dit-on, historique. Bonjour, Laurie Kenton.
Bonjour.
Spécialiste des États-Unis à l'Université Versailles-Saint-Quentin, merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on explique cette mobilisation, donc déjà très forte, alors que je me souviens, au lendemain du 8 novembre, ces témoignages sur notre antenne, ici même, des lecteurs qui se disaient désabusés, complètement là, à l'idée encore de revoter et de devoir affronter encore une campagne pour ce second tour. Pourquoi aujourd'hui on a une telle mobilisation, selon vous ?
Il y a un mélange de sens civique et de mobilisation par les moyens de la mobilisation des deux campagnes. Il y a un gros enjeu pour les deux partis, hein, malgré tout. On dit que les démocrates ont une majorité, mais enfin bon, pour les républicains, il y a quand même un enjeu pour minimiser, limiter la casse, en fait. On en reparlera sûrement tout à l'heure, mais donc il y a énormément de présence médiatique des deux partis, et donc y a des gens qui se sentent concernés. On l'a entendu, Obama, Warnock, il faut voter comme si la démocratie en dépendait. Voilà, bon, y a ça a un effet.
Avec un petit peu dans le détail, hein, si on regarde dans les statistiques qui ont été données, notamment des électeurs blancs qui ont voté à hauteur de 55%, aussi des femmes 56%, et puis des afro-américains, ça a son importance, hein, dans cet état des Géorgie, à hauteur là de 32%. Quand on a ces chiffres en tête, Laurie Kenton, est-ce qu'il faut y voir un avantage pour un camp plutôt qu'un autre ou pas?
C'est pas extraordinairement parlant parce que il y a en gros 30 à 31% de noirs dans l'électorat. Et on sait qu'ils votent essentiellement par anticipation, contrairement aux républicains qui sont nettement plus blancs, qui votent le jour de l'élection, donc aujourd'hui. Donc qui est un peu plus de noirs dans l'électorat par anticipation que dans l'électorat normal, c'est prévisible. Ça aurait été beaucoup plus significatif si on avait eu plus de 35%. Là, ça me semble refléter à peu de choses près de l'électorat, et on va voir si les républicains, et notamment les républicains blancs, se mobilisent aujourd'hui, sachant qu'il ne fait pas bien chaud à Atlanta, il pleut. Alors, ce n'est pas des trombes non plus, ce n'est pas la tempête de neige, mais ça peut avoir son petit impact.
Alors, peut-être la météo avec un impact. Autre impact, dites-nous, parce que c'est la première fois en Géorgie que la période entre les deux tours est si courte. On est à 4 semaines contre 9 auparavant. Est-ce que ça peut avoir une incidence quelconque et servir, là encore une fois, un camp plutôt que l'autre?
Ça a le gros avantage de garder une dynamique un petit peu ouverte. C'est-à-dire que quand on est, nous, dans nos élections françaises, on a généralement une semaine ou deux semaines entre les deux tours. Donc, c'est quand même relativement rapproché. Ça permet de ne pas trop perdre l'attention. Quand on a 9 semaines entre deux tours, ben, on pense quand même un petit peu à autre chose. C'est difficile de s'organiser pour les campagnes parce qu'il faut tenir 9 semaines. En même temps, plus ça dure, plus on peut lever de l'argent. Mais moins ça dure, moins on a besoin de lever de l'argent. Donc, ça permet de garder une espèce de fraîcheur et une sorte d'intensité qui est plus difficile à conserver sur 9 semaines.
Mais en rien, ça ne sert ces nouvelles règles électorales établies par justement un gouverneur républicain, en rien, ça ne sert justement ce camp républicain.
Pas de manière déterminante. Non. Les démocrates ont fait un effort de mobilisation qui est tout à fait notable, mais ça ne semble servir aucun des deux camps.
Alors, on l'a dit, hein, et on le répète là avec les mots de Joe Biden, c'est une élection vraiment essentielle, il l'a dit hier le président américain. Pour autant, cela changerait beaucoup, a lui précisé Barack Obama, l'ex-président, s'il y avait une victoire démocrate à la clé, alors que les démocrates, le camp présidentiel, a déjà la majorité au Sénat. Ce beaucoup qu'évoque Obama, qu'est-ce que ce serait pour les deux prochaines années de Joe Biden?
Alors, ils n'ont pas vraiment la majorité, c'est-à-dire que pour l'instant, on serait à 50-50 et ils ont le vote décisif de la vice-présidente pour les votes au Sénat. C'est-à-dire que pour le quotidien du Sénat, on serait à 50-50, et donc c'est-à-dire que les commissions parlementaires devraient être réparties entre les deux partis. Alors que là, si on est à 51-49, les démocrates peuvent avoir la tête de toutes les commissions.
Donc ça veut dire
ça change quand même énormément de choses pour le travail parlementaire au quotidien. On ne partage pas le pouvoir avec les républicains et on a l'avantage d'un vote décisif quand il faut voter. On a vraiment une vraie majorité au Sénat et surtout, on peut se passer du vote ou du non-vote d'un sénateur rétif, par exemple Joe Manchin, qui a fait beaucoup de misère à son camp sur les deux premières années. Donc là, ce serait une façon de pouvoir le contourner, d'avoir un peu plus les coups des franches.
Et à l'inverse, pour les Républicains, une victoire en Géorgie, qu'est-ce que ça signifierait?
Alors, il y a d'abord une petite dimension symbolique, ça veut dire qu'ils conserveraient quand même un petit peu la main avec un candidat qui n'est quand même pas facile en Géorgie. Notons que Brian Kemp, le gouverneur, a été réélu très facilement, lui. Et ça leur permettrait de sauver un petit peu les meubles, c'est-à-dire qu'ils ne perdraient pas au Sénat, il y aurait égalité, il y aurait 50-50. Comme ils ont très légèrement emporté la Chambre, ça leur permettrait d'écrire un récit d'élection qui est un peu plus flatteur.
Et casser peut-être un peu la dynamique aussi des démocrates et de Joe Biden qui s'en est mieux sorti lors de ces élections de mi-mandat le 8 novembre dernier. Herschel Walker, donc le républicain là, dont on parle, après des performances décevantes, si jamais il perdait après des performances décevantes d'autres candidats qu'avait soutenu Donald Trump, parce que je le rappelle, Herschel Walker est soutenu par l'ancien président, est-ce que ça signifierait que Donald Trump perd un peu plus son emprise sur le parti républicain, si jamais Herschel Walker venait à perdre?
En surface, oui. C'est-à-dire que quand on regarde de loin, on voit un candidat soutenu par Trump qui a perdu. Donc, il semblerait que Trump ne l'ait pas aidé. Après, je me demande s'il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que les candidats qui ont soutenu Trump ont cherché à être soutenus par Trump et donc étaient un petit peu sur ces lignes, c'est-à-dire des lignes qui sont un peu déphasées par rapport à l'opinion publique sur l'avortement, sur les résultats de 2020, ce genre de choses. Donc, de toute façon, ils partent avec un désavantage vu qu'ils sont très conservateurs, très radicaux. Et donc, la question est de savoir si, livrés à eux-mêmes, des gens comme Herschel Walker auraient fait aussi bien, en réalité, que ce qu'ils ont fait. Et donc, la question est de savoir si l'imprimatur de Trump leur permet pas de gagner un petit peu des voix, des fans de Trump, malgré leur médiocrité, on va dire. Et donc, finalement, si Trump n'est pas décisif, mais en tout cas, leur permet d'être plus haut que ce qu'ils auraient été.
Eh bien, on verra ça donc avec ces résultats en Géorgie. Question, Madame Irma, Laurie Kenton, juste, on aura les résultats demain ou pas, à votre avis?
Eh ben, ça dépend si c'est très serré, qu'il faut recompter, par exemple. Ouais. A priori, là, on avait quand même eu des résultats relativement tôt. Ça dépend aussi de quand les votes sont comptabilisés. On sera dans une petite fourchette. Et il peut y avoir... ça peut prendre un certain temps, quand même.
Très bien. Laurie Kenton, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup pour votre éclairage.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
À 8h20 à Port-au-Prince, après l'élite politique, l'élite économique, l'annonce a été faite hier après avoir sanctionné un ex-président, d'ancien premier ministre. Eh bien, le Canada allonge sa liste des personnes sanctionnées pour leur soutien aux gangs armés qui gangrènent Haïti. Ottawa, cette fois-ci, s'en prend, Amélie Baron, à des grands noms du secteur économique privé.
Gilbert Bigiot, Reynold Dib et Shérif Abdallah. En Haïti, ces trois noms sont célèbres car synonymes de très grande fortune. Qu'ils figurent aujourd'hui sur la liste canadienne des personnes sanctionnées pour leur soutien financier des gangs, c'est peu dire que cela va créer des remous dans le secteur privé du pays. Car la décision entraîne le gel immédiat des avoirs que ces trois hommes d'affaires pouvaient avoir au Canada et interdit également toute transaction financière avec eux. Ottawa précise que ces mesures sont prises parce qu'il y a, je cite, « des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membre très en vue de l'élite économique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Combattre les gangs d'Haïti en s'attaquant à leur portefeuille, c'est la stratégie adoptée par le Canada et aussi, mais à une moindre échelle jusqu'ici, par les États-Unis. Mais face à cette dynamique menée depuis l'étranger et qui a déjà épinglé un ancien président, deux anciens premiers ministres et plusieurs parlementaires, la justice et la classe politique haïtienne restent, elles, bien silencieuses.
Des sanctions sur lesquelles Alter Press revient, évidemment. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence en ligne avec nous de Port-au-Prince, Godson. Y a-t-il des réactions à ces annonces?
Eh bien, c'est encore le silence, silence pesant à l'heure où nous parlons du côté des intéressés ou des organisations du secteur privé. Les partis ou groupements politiques ne sont pas non plus avares de réactions. Au niveau du mouvement Montana, une ligne est tracée, cependant, même si ces sanctions peuvent avoir un certain impact sur la conjoncture, elles n'auront par contre aucune conséquence durable sans une vraie transition de rupture. C'est dans cette seule condition que le système judiciaire en Haïti peut se charger de cette dossier en vue de punir, comme l'exige la loi, les auteurs intellectuels et physiques de crimes financiers, mais aussi de sang, souligne le mouvement Montana.
Le Canada, donc, Godson, qui multiplie les sanctions et se montre plus agressif que les États-Unis, Godson, si bien que vous vous interrogez, la barre est-elle trop haute pour Washington ?
Eh bien, cette question, on se la pose suite à un article du Miami Herald qui relève que les États-Unis pourraient éprouver quelques difficultés à sanctionner des personnes ayant pris la nationalité américaine ou celles qui résident légalement aux États-Unis. Même si les autorités américaines n'avaient pas écarté la possibilité de les sanctionner, ces personnes-là, il reste qu'elles bénéficieraient de protections juridiques grâce à leur statut d'immigration. Il faudrait un dossier juridique. Par contre, les États-Unis pourraient facilement sanctionner des ressortissants étrangers vivant à l'étranger, donc sur la base d'informations, de renseignements. C'est ce que fait remarquer en tout cas le journal.
Le Miami Herald. Donc pendant ce temps, Godson, eh bien, la spirale d'angoisse face à la violence continue. Alter Press revient sur les actes criminels qui paralysent ces derniers jours encore une partie du territoire haïtien.
Eh bien, c'est toujours une chronique de sang coulé, comme on dit ici. Des organisations et personnalités ne cessent d'exprimer leurs vives inquiétudes par rapport à l'intensification de ces violences de gangs armés, avec à la clé massacres et viols collectifs en série. Des témoignages de victimes à Petite-Rivière-de-l'Artibonite dans le nord, à Carrefour-Feuille au sud de la capitale ou à Cabaret au nord de Port-au-Prince sont tout à fait bouleversants. Réagissant à cette situation, le professeur Victor Benoît, président du parti Rassemblement social-démocrate pour le progrès d'Haïti, estime que pour mettre fin aux activités criminelles des gangs, il faut une volonté politique. Mais cette volonté politique n'existe pas. Le peuple est livré à lui-même, critique-t-il.
Godson Pierre d'Alter Press, tout ça retrouvé sur votre site. Merci Christophe Paget, je reviens à vous. Les États-Unis, au sujet d'Haïti, annoncent qu'ils étendent le TPS, le statut de protection temporaire, à 100 000 Haïtiens.
S'étant une du nouvelle liste, l'administration Biden a accordé à plus de 100 000 Haïtiens vivant aux États-Unis la possibilité de demander un permis de travail et une protection contre l'expulsion vers leur pays d'origine. Ceux qui sont entrés sur le territoire américain avant le 6 novembre sont éligibles pour un TPS prolongé pour Haïti de 18 mois, du 4 février 2023 au 3 août 2024, écrit Réseau Nord-Ouest.
Enfin, Christophe, on termine par l'Argentine. La vice-présidente Cristina Kirchner attend ce mardi de connaître le jugement dans le procès où son nom est cité, procès pour fraude et corruption présumée.
Rio Negro écrit que Cristina Kirchner met déjà en cause la justice, affirmant que toutes les garanties constitutionnelles ont été violées. Et le président argentin, Alberto Fernandez, titre Clarine en une, à quelques heures du verdict, s'en prend à des juges. Et il le fait sur la chaîne de télévision nationale pour une affaire qu'ils ont sortie de leur chapeau, estime le journal. Pour résumer, Alberto Fernandez a annoncé qu'il allait demander une enquête sur un voyage présumé de juges, de procureurs et d'hommes d'affaires du secteur des médias, après la diffusion ce week-end de messages dans lesquels il semblait vouloir dissimuler ce voyage. Clarine se demande pourquoi le président n'a pas prévu d'enquêter aussi sur ce qui a piraté ses messageries et donc sorti ses informations.
Christophe Paget reviendra évidemment demain donc sur le jugement dans cette affaire qui concerne Cristina Kirchner.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
La liste des communes guadeloupéennes où l'offre de santé est jugée insuffisante vient d'être réactualisée.
Une liste publiée par l'Agence régionale de santé et la direction démographie et accompagnement des personnels de santé. Le dernier point sur les déserts médicaux dans les îles de l'archipel guadeloupéen datait de 2017. Peggy Robert.
C'est quasiment toute la Guadeloupe qui manque de médecins. L'offre de soins est jugée insuffisante dans notre département, soit en raison de nombreux départs de médecins à la retraite et l'absence de nouvelles installations, soit en raison des délais d'attente pour un rendez-vous. Au final, 21 communes sont classées en zone d'intervention prioritaire, autrement dit, une bonne partie de la Guadeloupe sont classées en zone d'intervention prioritaire, le Nord Grande-Terre, Moules, Sainte-Anne, Désirade, Marie-Galante, Les Saintes et en Basse-Terre, Sainte-Rose, Déhais, Pointe-Noire, Bouillante, Vieux-Habitants, Petit-Bourg, Capesterre-Belle, Trois-Rivières et Basse-Terre. 9 autres communes sont classées, elles, en zone d'action complémentaire. La situation est moins tendue, mais elle nécessite des moyens pour éviter que la situation ne se détériore. Lamantin, Baïf, Saint-Claude, Gourbert, Vieux-Fort, Mornalo, Les Abîmes, Gosier, Saint-François et les deux dernières zones sont hors zonage, Pointe-à-Pitre et Bémao, car l'offre de soins y est considérée comme satisfaisante.
On reste dans le domaine de la santé avec cette étude de l'ANSES qui vise à faire baisser le taux de chlordécone dans le sang des Guadeloupéens et des Martiniquais en modifiant l'alimentation. Parmi les recommandations des chercheurs, faire attention notamment à la production d'œufs dans les poulaillers familiaux. Comme l'explique le coordonnateur de cette expertise de l'ANSES, Julien Jean, à Célia Cléry.
C'est un aliment qui concentre le chlordécone. Mais il est possible de limiter cette contamination en étant attentif à la façon d'élever et de nourrir ces poules. Donc on sait aujourd'hui comment faire pour éviter qu'elles ingèrent trop de chlordécone, les isoler le plus possible des sols qui sont pollués, veiller à les nourrir avec des aliments qui ne sont pas contaminés, donc éviter de leur donner des épluchures de légumes racines ou les carcasses des crustacés qu'on a pu manger la veille, par exemple. L'ANSES insiste pour que la population sollicite beaucoup plus les programmes JAFA. Les programmes JAFA, c'est des programmes qui accompagnent la population dans la gestion en fait, de leur potager. Ils proposent des analyses de sol gratuites et ils proposent aussi des conseils vis-à-vis des pratiques d'élevage ou de culture. En fait. Et c'est des programmes qui, pour l'instant, sont peut-être sous-sollicités. Et on pense que c'est quand même à tort qu'il faudrait aller plus vers ce type de programme-là.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Benoît Ferrand, merci, bon après-midi à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Américains. Retrouvez, vous le savez, sur notre application RFI Pure Radio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve demain pour une nouvelle édition avec des témoignages exclusifs d'Haïtiens expulsés Manu Militari de République Dominicaine. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Témoignages donc à suivre.